This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Léna Kim. Cette année-là, 1951, figurez-vous que c'est l'année de lancement de la Calypso. Alors la Calypso, c'est un navire océanographique célèbre, célèbre pour les plus anciens d'entre nous, un peu moins pour les plus jeunes, bien que la plupart aient certainement vu Le Monde du Silence ou d'autres documentaires qui se passent sous le niveau de la mer. Alors la Calypso, donc, c'est ce navire que le commandant Cousteau frette le 24 novembre 1951 et sur lequel, jusqu'en janvier 1996, il va voyager avec son équipe sur toutes les mers et tous les océans du globe. Le navire fut baptisé du nom de Calypso parce que Calypso, c'est le nom de la nymphe de la mer dans la mythologie grecque. Alors, s'il est vrai que le commandant Cousteau est l'homme de la Calypso, eh bien, la Calypso a une âme. Et cette âme n'est autre que la première épouse du commandant Cousteau. Et il m'a semblé utile de revenir sur cet aspect des choses qui montre que, quelquefois, l'homme célèbre ne l'est que par rapport à quelqu'un qui, dans l'ombre, la plupart du temps, est hyperactive et est souvent celle par qui la notoriété arrive.
Ce bateau, c'est mon paradis. Et c'est une merveille de passer ma main sur son plat-bord, de caresser ses épontilles, de respirer sa peinture, de ressentir ses vibrations, de le connaître dans ses moindres détails. Quand il est au bassin, je passe des heures à le regarder, à l'admirer. Et ils savent, eux, l'équipage, que je l'aime tellement qu'ils ont peur de me dire qu'il vieillit, qu'il fait de l'eau, qu'il faut changer telle pièce de la machine. Je suis prête à tout pour lui, car je sais que je mourrai le jour où mon bateau ne sera plus.
C'est l'histoire d'un amour fusionnel. Un amour méconnu entre une femme et un monument du patrimoine mondial. Simone Cousteau, la première femme du commandant, l'âme de la Calypso. Deux collaborateurs du commandant Cousteau ont accepté de nous livrer leurs souvenirs, Jocelyne Depasse et Jean-Marie France, de passage à La Rochelle grâce à Jean-Yves Gallet, le président de l'Association des Amis du Musée Maritime. Voyage dans le passé pour leur première rencontre avec le commandant.
Ça s'est passé dans le bureau de l'éditeur et je venais là avec mon essai de traduction. Il en avait refusé d'autres. C'était la traduction de l'encyclopédie Cousteau, on l'appelait comme ça à l'époque, en 20 volumes. Et ça avait été écrit en Amérique par des journalistes américains, signé par Cousteau, enfin par son équipe là-bas. Et il fallait faire une édition française qui est devenue ensuite l'édition de référence à partir de laquelle on a traduit dans les autres langues. Ce livre s'est vendu autant que la Bible. Ah ben, j'étais folle de joie parce que je le voyais à la télévision chaque semaine. J'adorais ses films. Donc je ne pouvais pas croire qu'un tel bonheur m'arrivait, surtout quand il a dit c'est elle et personne d'autre.
Le fond de la poursuite, c'était ma cabine. Et juste à côté, la porte à côté, celle du commandant. Après, il y avait la porte du carré, les portes de la machine. J'avais 22 ans. J'étais sous-marinier de la Marine nationale. Le commandant Cousteau cherchait deux mécaniciens pour faire le tour du monde. Alors, quand on a 22 ans, qu'on vous propose de faire le tour du monde sur Calypso, on ne peut pas dire non. Et en plus, j'étais un peu payé, même plutôt bien. Donc j'ai dit oui, j'ai été pris à l'essai et je suis resté 34 ans.
Et quand il parle de la vie à bord de la Calypso, un nom fait surface. Pas celui du commandant, celui de son épouse, Simone.
Là, le jour des fiançailles avec Cousteau, Elle a 18 ans, hein, même pas 17 ans, puisqu'elle s'est mariée, elle en avait 18.
Et le commandant, il a quel âge ?
10 ans de plus qu'elle.
Un mariage qui se fera à Troyes, la Calypso dérobant le cœur de Simone. La jeune femme passera sa vie à bord du bateau.
Personne ne savait qu'elle avait passé 40 ans à bord, qu'elle était l'âme du bateau. Si, quelques initiés, mais le public en général ne le savait pas. Qu'elle avait eu un rôle extrêmement important sur ce bateau, que si elle n'avait pas été là, il n'aurait pas pu faire le quart de ce qu'il a fait. Parce que c'est elle qui assurait l'intérim entre ces différentes absences. Parce qu'à partir de 56, quand il a eu le prix à Cannes, il était presque plus à bord. Il venait uniquement pour les raccords de films.
Elle était tout. Elle était le commandant, c'est elle qui commandait le bateau. Elle remplaçait le commandant Cousteau, c'est elle qui prenait les décisions. Et en plus, elle était aussi la mère et la sœur de l'équipage. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Elle était pas douce. Elle était très, un vrai marin, très autoritaire. Un peu jalouse aussi, même peut-être beaucoup. C'était son équipage et son bateau. Et c'était un personnage inoubliable.
Voilà un très beau portrait donc de Simone Cousteau, l'âme de la Calypso. Alors ce navire, évidemment, est aujourd'hui en cale sèche. Il se trouve qu'un an avant la disparition du commandant, en janvier 1996, eh bien, la Calypso a été heurtée dans le port de Singapour par une barge qui l'a immédiatement coulée. Au moment du naufrage, le commandant Cousteau a écrit qu'il souhaitait que la Calypso reste au service de la science et de l'éducation. Alors, elle fut renflouée, convoyée jusqu'en France en catastrophe. Mais après avoir passé un certain temps à flot dans le port autonome de Marseille, elle fut remorquée vers le bassin des chalutiers du musée maritime de La Rochelle le 7 juin 1998, où, après une légère restauration, elle devait accueillir une exposition. Puis, une longue série de mesures juridiques, des retards, ont donc empêché d'une véritable restauration. Aujourd'hui, les choses ne sont pas réglées. Et beaucoup de problèmes ont surgi au fur et à mesure. La mésentente entre les différents héritiers, sans rentrer dans les détails. En tout cas, en 2010, l'équipe Cousteau a donc déposé auprès du ministère de la Culture une demande pour que le bateau soit classé patrimoine national, ce qui lui permettrait d'avoir accès à des fonds publics. En 2012, le navire est classé bateau d'intérêt patrimonial par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial. Et le 17 septembre 2013, c'est encore assez récent, une pétition a été lancée qui demande le classement de la Calypso au titre du patrimoine national et donc est mise en ligne. Je crois qu'on peut encore la signer, mais rien n'est fait. Et donc le bateau est actuellement en train de sécher, si on peut dire, dans quelques hangars maritimes. Voilà, une belle odyssée qui s'est achevée un peu difficilement. Alors cette année-là, d'autres musiciens de ce courant d'air frais dont je parle depuis le début de cette année 51, d'autres musiciens donc apparaissent. Et parmi eux, un saxophoniste baryton qui va faire terriblement parler de lui, il s'agit de Jerry Mulligan. Thank you. Le 21 août 1951, le Jerry Mulligan New Stars enregistre donc ce Fun House, une composition de Jerry Mulligan, arrangée par lui-même, en compagnie donc de Holly Wilson au trombone, Alan Eager au saxophone ténor, Jerry Mulligan au saxophone baryton, George Wellington au piano et Phil Lechin à la basse et Walter Bolden à la batterie. Le tout enregistré à New York. Alors, dans ce groupe qui n'a pas encore vraiment la tonalité de ce que seront les groupes de Mulligan, il y a encore un pianiste. C'est une formule qu'il abandonnera lorsqu'il créera un quartet avec Chet Baker, le trompette, où là, le pianiste disparaîtra au profit de la simple batterie et basse, ce qui donnera une tonalité tout à fait particulière aux formations de Mulligan. Le même jour de la même session, donc, ce groupe autour de Mulligan enregistre une autre composition de Jerry Mulligan, Roundhouse. Thank you. le Jerry Mulligan New Stars, donc apparition de ce saxophoniste baryton extrêmement doué, qui écrit la musique, qui arrange la musique, qui le fait pour, qui orchestre, et qui donc est à l'aise aussi bien en petite formation qu'en grand orchestre. C'est un musicien extrêmement complet et qui, en plus, est un soliste de grand talent. On reconnaît très souvent dans des formations, lorsqu'on ne sait pas qui joue, on reconnaît le saxophone baryton de Jerry Mulligan. Alors, il est un autre musicien qui apparaît ces années-là, et notamment en 1951. Il s'agit de Paul Kinichet. Eh bien, voilà un musicien dont la notoriété n'a malheureusement pas franchi le siècle, mais qui est un musicien très intéressant. Alors, on l'appelait souvent le vice-président. Alors, pourquoi le vice-président ? Parce que celui que l'on appelait le président, c'était Lester Young, musicien qui est son aîné, et dont il apparaît un peu comme l'un des continuateurs, en tout cas dans la manière de jouer du saxophone ténor, manière extrêmement chaleureuse. Alors, certains ont dit un peu sirupeuse à certains égards. En tout cas, on a maltraité ce musicien. Il y a quelque chose de péjoratif dans le surnom et dans la manière dont on a décrit sa musique. Et c'est dommage. Alors, en 1951, il est engagé. Il joue pupitre chez Count Basie, mais il enregistre également sous son nom. Et donc, en général, il distrait des musiciens de l'orchestre de Count Basie pour enregistrer. Et là, nous allons entendre une composition de Freddie Green, le guitariste de l'orchestre, mythique de l'orchestre de Count Basie, une composition qui s'appelle Crossfire. Paul Kinichet, saxophone ténor, en compagnie de Kenny Drew au piano, Bill Doggett à l'orgue, Freddie Green à la guitare, Jimmy Lewis à la basse et Gus Johnson à la batterie, enregistré le 5 octobre 1951 à New York. Cette même année, l'une des grandes stars du jazz, Sarah Vaughan, Sassy, la divine, enregistre un morceau extrêmement intéressant. C'est une composition figurez-vous, de Debussy.
See that this love was meant for me. Only a poor fool, never schooled in the whirlpool of romance, could be so as you are to me. My dreams are as worthless as tin to me.
My Reverie, donc une composition de Claude Debussy, arrangée et réorchestrée par Larry Clinton et interprétée par Sassy la Divine, Sarah Vaughan, le 1er juin 1951, en compagnie d'une grande formation emmenée par Paul Weston. Les grandes formations, il en est aussi en 1951, qui apparaissent. Le jazz se modernise, y compris dans les grandes formations. Et je vous propose d'écouter le chef d'orchestre qui s'est voulu moderne, presque d'avant-garde à cette époque-là. Il s'agit du grand orchestre de Stan Kenton. Thank you. Solo, une composition de Charlie Rogers arrangée par lui-même et interprétée avec brio par Bob Cooper au saxophone ténor avec la grande formation de Stan Kenton enregistrée à la Cornell University d'Ithaca, New York, le 14 octobre 1951. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de l'année 51. Demain, une prochaine histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte The Everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.